Bonjour à tous, donc je suis Thomas Fajasca, je suis consultant en management de la sécurité système d'information. Voilà, comme disait Laurent, ce webinaire a pour but de vraiment embrasser les principaux points d'hygiène recommandés par l'ANSSI. Voilà, dites-vous, ça a été conçu pour répondre aux questions un peu bateau que peut vous poser votre team qui n'y connaît rien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu. Donc du coup, pour ce faire, ce webinaire, il va s'articuler en trois points. Donc, dans un premier temps, nous aborderons le thème des mots de passe en rappelant qu'est-ce qu'un mot de passe, quels sont les risques auxquels ils sont exposés, pourquoi utiliser et qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe, les différents modes d'authentification un peu avancés, enfin vraiment les principaux. Et ensuite, nous discuterons des Wi-Fi publics, en expliquant en quoi ils sont dangereux et comment du coup se prémunir de ces dangers. Et avant de conclure, nous parlerons de la protection physique, donc plus particulièrement de ce qui va être un peu l'équipe de confidentialité, chiffrement des médias et surtout les principes de discrétion dans les lieux publics et sur les réseaux. Ce webinaire, comme disaient mes collègues, c'est une discussion. N'hésitez pas à intervenir. On répondra à vos questions, ou voire même, on est vraiment friand de prendre vos retours d'expérience sur certaines problématiques. Donc, du coup, le mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'un mot de passe? Eh bien, donc, un mot de passe est un secret que nous connaissons et qui permet de prouver notre identité. Bon, malheureusement, cette méthode, ce n'est pas la plus intelligente, concrètement. On a besoin d'un peu plus de choses. Pour resituer un petit peu, il y a une étude qui a été réalisée par Merpas en février 2020 qui disait que une personne, on va dire un peu lambda, a environ 100 mots de passe. En 2019, ce chiffre était 25% inférieur. Donc imaginez, vous voyez, l'accroissement des services fait qu'on a de plus en plus de mots de passe. Par exemple, moi là ce matin, j'ai regardé, j'ai 384 mots de passe. Qui sont tous différents. J'ai pas une super mémoire, donc je suis pas Sheldon Cooper. Concrètement, ce qu'il faut, c'est mettre en place des moyens qui permettent d'avoir des mots de passe différents. Pourquoi? Parce que quand vous faites voler vos données, on a remarqué que les gens utilisent tout le temps les mêmes identifiants. Donc, ce soit mot de passe et adresse email. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en volant un mot de passe, je vole, là, en février 2020, je vole vos 100 comptes. Et peut-être en 2021, donc les gens avaient 125 mots de passe. Et ben, j'ai même accès à vos comptes que vous n'avez pas encore créés. Parce que vous utilisez tout le temps le même schéma. Donc, vous voyez un peu la problématique. Donc, du coup, rapidement, qu'est-ce qui est considéré comme étant un bon mot de passe? L'ANSSI, l'agence vraiment nationale de tout ce qui est sécurité système d'information, dit qu'au minimum du minimum, il faut un mot de passe à 12 caractères avec des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Et là, on parle d'un minimum. Eux, ce qu'ils recommandent, c'est 16 caractères. Donc, dans un dictionnaire de 90 caractères alphanumériques, comme je disais plus haut. Et du coup, Laurent a une super idée pour bien se rappeler la structure d'un bon mot de passe.
Ouais, alors, en complément de ce que tu disais juste avant, c'est même les spécialistes de l'IT, parfois, se font avoir quand ils réutilisent les mots de passe. L'exemple le plus connu, en fait, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, vous connaissez tous, patron de Meta, maintenant Facebook à l'époque, qui s'est fait péter son compte Pinterest et d'autres réseaux sociaux, Twitter aussi, parce qu'en fait, il utilisait un même mot de passe sur ses réseaux sociaux. À l'époque, il y avait une mine dedans, et une mine avait été compromise en 2015. Et par la compromission de LinkedIn, en fait, tous ces autres réseaux sociaux se sont fait avoir. Donc voilà, c'est pas une question de spécialiste, c'est juste une question d'attention. Aujourd'hui, en fait, on peut être réveillé à cet élément-là, un mot de passe, en fait. Et ça permet de rebondir sur la méthode, en fait. C'est un petit acronyme simple pour retenir, en fait, ce qui est un bon mot de passe. Pour moi, on l'appelle SURE, en fait. S, comme secret. Le mot de passe, en fait, on ne le partage pas, en fait, on ne donne pas un tiers ou n'importe quoi. Il est personnel. U comme unique. On va l'utiliser qu'une seule fois, en fait. L'idée, c'est de ne pas les répéter parce que, souvent, on n'a pas envie d'être Mark Zuckerberg en 2015 ou on n'a pas envie de se faire avoir avec des mots de passe qui sont répétés. Et quand il y en a un qui est pété, d'autres services le sont aussi. Et puis, R, c'est robuste. C'est ce que dit l'ANSSI, en fait, et ce que disait Thomas. 12 caractères, enfin, 12 caractères alphabet numériques étendus, on va dire, c'est vraiment le minimum du minimum, monté même plus suivant suivant l'importance du mot de passe, en fait, et du service qui est associé, en fait, au mot de passe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en fait, un mot de passe, c'est quelque chose ce que l'on sait, mais c'est quelque chose qui est prédictif, potentiellement. On peut casser, sans spoiler ce que dira ensuite Thomas. Et donc, plus on va mettre quelque chose de long, et plus ce sera compliqué. Il y a des services qui permettent de mesurer la durée de calcul pour trouver un mot de passe. Et à 16 caractères, basé sur un alphabet de 80 caractères, on compte en trillions d'années. Donc aujourd'hui, on est encore à peu près tranquille. Je te reprendrai ça maintenant.
Merci. Donc, du coup, pour mémoriser donc, ces mots de passe qui sont uniques et robustes, ce qu'il nous faut, c'est donc utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout sauf le post-it sur l'écran que bah, personnellement, j'ai pu voir en entreprise où un directeur d'une entreprise financière avait sur son écran un post-it avec le mot de passe, donc l'administrateur du domaine, donc en gros vraiment le Graal en cas d'attaque. Cet écran qui donnait sur une rue passante de Paris, très passante de Paris, qui en face de la rue, il y avait son principal concurrent. Donc ouais, vous pouvez mettre n'importe quelle sécurité, vraiment tout ce qui va bien, si à un moment vous avez un utilisateur bah, qui. Ça, c'est dommage. Et bien sûr, il n'y avait pas de panneau occultant ou quoi que ce soit sur la fenêtre. Quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Donc, en gros, c'est une sorte de coffre-fort numérique qui permet donc de générer, pour les meilleurs d'entre eux, de générer des mots de passe aléatoires. Donc, du coup, le côté, on a un mot de passe qu'on ne connaît pas, on a un mot de passe qui répond à certaines normes. Par exemple, moi, celui que j'utilise propose des mots de passe à plus de 40 caractères. Donc, quand les sites le permettent, c'est ce que j'utilise. Et là, on verra plus tard là, ce qu'on appelle la brute force, on a du temps devant nous. Mais par contre, il faudrait que ce gestionnaire de mots de passe, donc on disait, il faut qu'il ne connaisse pas ce mot de passe. Par exemple, l'un des plus connus, LastPass, s'est fait hacker il y a quelques années. Et les pirates, finalement, n'ont réussi à récupérer aucun mot de passe des clients de LastPass. Parce que LastPass lui-même ne connaît pas les mots de passe donc, de ses clients. Donc ça, déjà, c'est un vrai gage de confiance et de qualité. Il faut aussi être multiplateforme. Parce qu'aujourd'hui, on a donc, des téléphones qui n'ont pas forcément le même système d'exploitation que notre ordinateur à la maison, que voire même si on a un autre équipement professionnel. Alors déjà, il faut bien séparer les personnes qui ne le font pas, malheureusement. Donc, il faut vraiment avoir ce côté multiplateforme, donc Windows, Mac, Linux, iOS, etc. Et aussi, moi, ce que je rajouterais, c'est qu'il faut qu'on puisse faire une extraction de ces mots de passe. Parce que si un jour, on veut changer de gestionnaire ou, pour X raison, on a besoin, alors c'est pas trop recommandé, mais on a besoin de les sortir, il faut qu'on puisse les sortir dans un format vraiment très grand public, comme par exemple le CSV. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le proposent pas. Comme ça, vous êtes obligé de rester chez vous. Donc, c'est quelque chose à regarder en tête.
Thomas, je me permets aussi de rajouter quelque chose dans le côté multiplateforme. On va parler d'un exemple concret qui passe, par exemple, aujourd'hui, qui est un gestionnaire de mot de passe en fait, qui existe en client lourd uniquement. C'est un programme que vous allez installer sur votre ordinateur, que ce soit un Windows, que ce soit un Linux, que ce soit un Mac, peu importe. Vous avez une distribution officielle. Par contre, il n'est pas multiplateforme dans la mesure où les portages sur les environnements de téléphone portable, que ce soit sur OS X ou enfin que ce soit sur iOS pardon, ou sur Android, sont faits par des tiers, ce n'est pas le même éditeur. Et donc, il y a potentiellement une difficulté par rapport à ça. Donc, il faut faire attention que le côté multiplateforme soit bien porté par l'éditeur de la solution et pas par un tiers. Parce que vous avez dans ces cas-là une vulnérabilité potentielle qui apparaîtra au niveau du tiers.
Merci. Et oui, et effectivement, je comptais juste après aborder ce petit point. Déjà, parce que on n'a aucun partenariat avec les marques que citées précédemment. Et celles que je vais vous donner, c'est vraiment des pistes pour vous, pour que vous puissiez au moins déjà dégrossir un petit peu. Donc, concrètement, donc il y a Dashlane, il y a LastPass, OnePassword et KeePass. KeePass étant le seul, à ma connaissance, parmi ceux que je viens de citer, qu'il y a un tampon de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, comme je disais plus haut, c'est donc une très grosse agence qui donne le la sur un peu la cybersécurité en France. Et ils ont une casquette aussi, ils auditent sur différents niveaux, donc après des tests, des systèmes d'exploitation, du matériel, et qui passent à une certaine version l'AIT. Donc voilà, ça. Sachant que qui passe donc est totalement gratuit open source et permet dans un premier temps donc de se familiariser un peu avec cet univers-là. Et voilà, comme vous disiez, nous on n'est pas sponsorisé, on n'a pas de parti pris, on les aime plus.
En complément, peut-être, il y en a un qui est en train d'être certifié, qui s'appelle LogPass, c'est porté par une société qui s'appelle LogSelf, qui est française, et qui est en train d'avoir en fait une sorte de tampon souverain, on va dire, en gestion de mot de passe. Ils sont assez jeunes, ils n'ont pas forcément encore toutes les fonctionnalités que tu vas parler les autres, mais l'ANSSI est en train de les auditer en profondeur pour justement être sûr qu'ils puissent leur donner un tampon. Donc, s'il fera un deuxième acteur sur cet environnement-là, qui par contre serait un acteur complètement souverain.
C'est ça. Et aussi, c'est vrai que j'ai oublié une fonctionnalité qui est en train d'apparaître sur certains qui est assez intéressant, notamment bah, du coup pour des versions payantes. C'est donc vous avez sûrement dû entendre donc parler du Darknet, qui est un réseau donc un peu particulier où bah, ceux qui volent les données les revendent. Et certains donc gestionnaires de mots de passe maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir si vos identifiants sont en vente sur le Darknet et du coup vous recevez une alerte qui vous permet, qui vous dit bon bah là attention, il faut changer de mot de passe. Mais comme vous avez un mot de passe à chaque fois qui est unique, bah, l'impact est faible, vous avez juste un seul mot de passe à changer et pas les 100 ou comme moi les 384 mots de passe à modifier. Ce qui d'ailleurs apporte un dernier point de sécurité sur les mots de passe, qui est le fait de les renouveler régulièrement. Donc selon les types de mots de passe, on est sur du 90 à 45 jours. Selon votre activité. La bonne pratique étant quand même 90 jours. Donc comme on expliquait, ça permet, si vous faites voler votre mot de passe, que la personne commence à faire une attaque, une teste tous les mots de passe un par un, et ben, il aura besoin de toute façon de plus de 3 mois pour réussir à casser votre mot de passe, qui sera déjà de base redoutable. Donc du coup, vous avez sûrement entendu parler donc le risque de certains, c'est d'enregistrer leur mot de passe dans leur navigateur, qui est une sorte de gestionnaire de mot de passe. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'aujourd'hui, enfin déjà, il n'y a encore pas si longtemps, et tout le monde n'a pas forcément un navigateur à jour, et aujourd'hui, sur certains, c'est encore le cas, ces mots de passe sont enregistrés, donc ce qu'on appelle en clair, donc c'est-à-dire sont parfaitement visibles, ils ne sont pas chiffrés, et n'importe quel site Internet peut les aspirer, les récupérer, et du coup, bah là, ils ont accès à tous vos identifiants mots de passe et les services associés. Donc ça fait gagner énormément de temps pour vous attaquer, quoi. Vaut mieux éviter, vaut mieux rester vraiment sur des services où bah, c'est vraiment leur métier, leur travail, qui font ça correctement. Maintenant, vous me dites, OK, donc on a dit que c'était pas même un mot de passe sûr et quand même atteignable, il y a un certain risque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, donc il y a des techniques avancées. Donc, je vais vous en présenter deux qui s'appellent donc le multifacteur, le MFA et le FIDO. Donc, le MFA, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de recevoir un code à usage unique, souvent sur certaines applications comme Authy, Google Authenticator ou Authenticator de Microsoft Office, qui génèrent des codes toutes les 30-60 secondes à usage unique. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais je vais donner un exemple qui va vous parler. Quand vous faites des achats en ligne, votre banque vous envoie un SMS. Ben voilà, c'est du MFA, c'est du MFA. Donc en gros, vous avez besoin de votre identifiant, de votre mot de passe qui est sûr, et de ce petit code en plus. Donc en gros, si vous faites voler votre identifiant, eh bien, il faudrait que la personne ait accès donc, à votre générateur donc, de code MFA pour pouvoir avoir accès au service. Laurence, tu veux ajouter quelque chose par rapport au MFA?
Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un second ou un troisième, enfin un autre critère. Le mot de passe, c'est quelque chose que l'on sait. On va rajouter un deuxième critère, en fait, qui va être quelque chose que l'on est. Donc, ça peut être de la biométrie dans ces cas-là, ou quelque chose que l'on possède. Et donc, ça peut être un certificat. C'est en fait ce que propose le fonctionnement aujourd'hui des solutions de MFA. Donc, quelque chose que l'on possède avec nos téléphones qui a un outil spécifique pour générer un mot de passe à usage unique, ou ça peut être une clé. Moi, je sais que j'utilise, j'en ai une, moi, sans faire un par-dessus, Voilà, j'ai caché le petit Y pour voilà, mais cette clé-là en fait me permet de la mettre dans dès que j'ai besoin de faire une authentification, j'utilise ça, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur mon ordinateur en fait, et ça me permet d'être complètement tranquille. Si quelqu'un venait à connaître mes mots de passe, à la rigueur, quelque part, je m'en fous de mes mots de passe, très clairement. Je peux même les donner, en fait, quelque part, je m'en cogne. Parce que j'ai ce critère-là qui me permet, en fait, d'être complètement sûr que derrière, si quelqu'un venait à voler mes mots de passe, bah, il ne peut rien faire, en fait. Je vais recevoir, en fait, une demande d'authentification complémentaire. Et donc, ça me permettra de savoir que mon mot de passe a été compromis. Donc, à ce moment-là, j'irai le changer avec, par mon gestionnaire. Comme ça, je suis à peu près tranquille. Donc, c'est vraiment le niveau de sécurité maximum que l'on peut atteindre aujourd'hui. Je sais que c'est pas forcément évident pour du grand public. Par contre, en entreprise, c'est quelque chose sur lequel on peut commencer à se poser pas mal de questions parce que c'est moi, c'est complètement nécessaire.
D'ailleurs, parmi les personnes qui sont dans le chat, il y en a qui veulent partager leur expérience de comment ils ont pu implémenter ça dans leur entreprise ou dans leur vie. Bah, n'hésitez pas à ce qu'on en parle, on échange. Moi, j'ai été à Nîmes pendant quelques années et quand je suis parti, on avait commencé à mettre en place donc, du FIDO. Donc, le FIDO, donc, c'est vraiment quelque chose qui permet aux utilisateurs de se connecter sans mot de passe. Donc là, ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Donc en gros, on utilise une clé de sécurité. Donc du coup, je ne vais pas nommer, mais celle qu'a montré Laurent, par exemple, qui a un téléphone, donc qui permet donc d'authentifier via USB, Bluetooth, NFC. Ces petites clés qui, en gros, au moment où on doit entrer notre mot de passe, il faut appuyer dessus. Donc déjà, ça prouve bien qu'on a la clé qui a déjà été enregistrée et autres. Et donc ces clés-là, moi quand j'ai quitté le monde de l'administration au système, c'était une révolution. Enfin, pour nous, on était vraiment vraiment rassurés par rapport à ça. Après, je comprends que c'est un coup, surtout une certaine culture à mettre en place. Alors c'était réservé aux admins, des gens sensibilisés. Maintenant, s'il y en a qui ont pu le mettre en place dans leur entreprise, bah, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience.
Tu vois qu'il y a deux questions qui sont apparues de Marie et de Laura. Marie, c'est sur les détails sur l'utilisation de la clé d'authentification, fonctionnement RFID, RFID, je pense que c'est RFID, USB, écran avec génération de clé. Là, en l'occurrence, en fait, je peux parler de celle que j'utilise. En fait, hein, elle fonctionne en USB et en NFC. Je l'ai référencée sur mes différents services. En fait, alors, j'utilise à titre personnel, parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué financièrement pour l'instant sur cette technologie. Il faut aussi avoir, pour aligner ça, en fait, avec votre niveau de maturité au niveau d'entreprise, en fait, si vos utilisateurs ne sont pas forcément matures sur ces questions-là, ramener cet élément en plus, je pense que c'est pas forcément pour une étape intermédiaire à faire en amont qui va être le générateur code à usage unique. Ça marche très très bien et c'est une bonne solution aussi. Sur la deuxième question, comment protéger encore plus le mot de passe de la messagerie? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Je sais pas, Thomas, si toi, tu as des précaux.
Eh
Moi, j'en ai
bien,
quelques-unes aussi. Vas-y, je te laisse avant pour commencer.
en fait, comme expliqué juste avant, moi, par exemple, concrètement, sur tous mes comptes donc de messagerie, aussi bien pro que perso, j'utilise donc le MFA. Donc, parmi ceux que j'ai cités, j'ai un des générateurs de mot de passe, enfin, de MFA, et qui me demande systématiquement, donc avant de me connecter, d'utiliser ce mot de passe-là. Et même via un ordinateur, un lieu connu, j'ai mis en place que bah, il me le redemande à chaque fois. Et moi, personnellement, c'est ce que j'utilise pour protéger mes comptes, sachant que chacun de mes comptes a des mots de passe différents, etc.
C'est pareil pour moi en fait. Ensuite, tout dépend de l'importance que vous allez donner à votre messagerie. Alors, on va parler d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel, de toute façon, ce n'est pas vous qui allez gérer cet élément-là, ça va être géré par votre administrateur et c'est rentré dans la politique de sécurité de votre système d'information. Dans la PSSI, on explique un petit peu le mode de fonctionnement et donc vous avez une solution qui vous est imposée et qui est portée par le RSSI, si vous en avez un. Et qui est mis en place par le sysadmin. Ensuite, à titre personnel, il faut faire attention aussi. Et là, c'est à vous de définir en fait votre acceptation du risque. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je me mets dans la position d'un attaquant, et que je veux avoir le maximum d'emprise, d'empreinte sur une cible, je vais attaquer sa messagerie. Dans sa messagerie, je vais avoir accès à plein d'éléments. Je vais avoir accès potentiellement à ses impôts, je vais avoir accès à des sites marchands, je vais avoir accès à ses réseaux sociaux potentiellement. Donc à partir de ça, je peux vraiment lui pourrir la vie. Donc pour moi, c'est MFA, c'est enfin, mettre le niveau de sécurité le plus important possible. Et si vous utilisez en fait une messagerie qui ne le propose pas, posez-vous la question de changer à titre personnel de messagerie. Il y a un site qui permet de visualiser tous les services qui permettent d'avoir ou pas de l'authentification porte. Il faut que je retrouve ces 2FA quelque chose. Je l'avais en quelque part dans mes éléments. 2FA.directory. Vous regarderez sur Internet, je vais vous le mettre dans le chat. Et ce site-là, en fait, vous permet de référencer absolument tous les services qui proposent du MFA. Si vous utilisez quelque chose qui ne le propose pas, ben, regardez si c'est compliqué ou pas de faire le changement. Mais moi, je vous invite à le faire, comme ça, vous êtes absolument tranquille, quoi. Voilà, j'aime poser le lien dans le chat.
Eh bien, merci. Donc, du coup, bon, bah, là, on a vu pas mal de choses. Donc, petit rappel donc, de ce qu'on a vu, les points clés. Donc, on disait, il faut que votre mot de passe donc, soit donc, sûr, donc secret, unique, robuste. Il faut utiliser donc, un gestionnaire de mot de passe efficace. Et, si possible, renforcer donc, vos mots de passe avec les méthodes MFA et FIDO. Donc, maintenant, le Wi-Fi public. Qu'est-ce qu'un Wi-Fi public? Donc, un Wi-Fi public est un réseau sans fil que vous pouvez trouver donc, dans certains établissements ou transports en commun, ou plein, plein d'autres endroits, hôtels, etc. Ce sont les Wi-Fi qui n'ont pas de mot de passe, qui parfois vous demandent donc, de valider les CGI et bah, après pour aller naviguer ce qu'on appelle un portail comme ça. Vous avez ça dans plein d'enseignes où on peut manger et boire des trucs assez chers au chocolat. Et donc, du coup, pourquoi c'est dangereux? Eh bien, en fait, il n'y a rien qui vous prouve que ce Wi-Fi eh bien, appartient à l'enseigne en question. Concrètement, avec ce qu'on appelle un Raspberry Pi, c'est un nano ordinateur, ça coûte 30 euros, avec une distribution du style petit Wi-Fi gratuite que vous mettez dessus, vous avez possibilité donc, de faire un portail captif, un free Wi-Fi, sans aucun problème. Et donc avec 30 euros, vous pouvez donc créer ça et du coup, tout votre trafic, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez taper dans votre barre de recherche, etc., ainsi que les mots de passe que vous allez saisir, seront interceptés par ce petit boîtier à 30 euros. Donc voilà, vous voyez un peu le problème que ça peut poser.
Peut-être pour compléter là-dessus, en fait, ça repose sur le Wi-Fi au départ, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été créé pour faciliter la vie du grand public. Et ça n'a pas été, c'est comme le mail à l'époque, le mail a été développé dans les années 70, c'est absolument pas quelque chose où la sécurité n'existait pas. On n'avait pas ça en tête. Le Wi-Fi, c'est pareil, exactement la même chose. Et donc, le fait de se connecter à un réseau Wi-Fi a été priorisé par rapport au fait de se connecter d'une façon sécurisée à un réseau Wi-Fi. C'est pas exactement la même chose. Et donc, les réseaux publics, aujourd'hui, quand vous les voyez, ben, ils peuvent être complètement jumpés et votre ordinateur ne fera pas la différence entre le underscore oui, underscore SNCF que vous utilisez quand vous êtes dans le train pour aller sur vos déplacements, avec un underscore oui, underscore SNCF que Thomas aura créé lui-même sur le petit boîtier dont il est en train de vous parler. Votre ordinateur, lui, il ne fera pas la différence. Il va juste voir un réseau Wi-Fi ouvert, il va essayer de se connecter dessus. Et à partir du moment où ben là, c'est petit bonheur la chance en fait. Et donc il faut faire attention à ça. Et là, ben, je te repasse la main, tu as des solutions justement pour éviter ce genre de soucis.
Tout à fait. Je vais juste répondre. Il y a une question qui a été posée. Je vais juste répondre avant. Donc, même un site en HTTPS. Alors, oui, concrètement, oui. Donc, déjà, tous les sites en HTTPS, pour faire vraiment très, très, très simple, ne se valent pas. Il y a différentes façons de protection qui sont mises en place. Si vous voulez aller plus loin, regardez un peu tout ce qui touche au TLS, par exemple. Et en gros, il est extrêmement facile de générer un faux certificat. Vous aurez toujours votre petit cadenas, sauf que concrètement, qui vérifie ce cadenas? Qui va cliquer dessus? Je peux créer un certificat où je mets je vous ai piraté en tant que fournisseur, enfin, en tant qu'autorité de confiance, et vous ne le verrez pas en fait. Donc concrètement, il est tout à fait possible, et en gros, de générer ses propres certificats. C'est ce qu'on appelle une attaque man in the middle. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui est au milieu et qui voit tout passer, qui génère un certificat à la volée. D'ailleurs, dans certaines politiques de sécurité au sein d'entreprise, normalement, sur les passerelles qui permettent d'aller vers l'extérieur, il y a ce type d'action qui est mise en place, mais ça, c'est pour protéger l'entreprise, pour voir s'il n'y a pas d'exfiltration de données, etc. Donc, concrètement, HTTPS, c'est bien de faire attention à ça, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en parfaite sécurité. Donc, juste, voilà, pour répondre à la question, j'ai pas vu les faire. Donc, du coup, comment on peut se protéger? On a déjà le plus simple. Merci. Du coup, le plus simple, c'est qu'on n'utilise pas de free wifi. Concrètement, on peut utiliser donc des routeurs 3, 4, 5G, votre téléphone, téléphone d'entreprise, tout dépend donc, à chaque fois comment dans quel contexte vous êtes. Ça, déjà, c'est le béaba. Si vraiment vous ne pouvez pas pour une seule raison, et de toute façon, à mon sens, aussi bien perso que pro, il faut utiliser un VPN à partir du moment qu'on n'est plus dans une zone de confiance, donc c'est-à-dire hors d'entreprise concrètement. Il faut utiliser un VPN. D'un point de vue pro, donc normalement, il y a ça qui est mis en place. D'un point de vue perso, vous avez des VPN qui sont assez performants, très peu chers aujourd'hui. Pour ajouter un petit peu de sécurité, vous pouvez vous en tirer pour vraiment pas cher. Donc le VPN, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, pour faire simple, c'est un tunnel qui sera sécurisé et qui chiffrera vos connexions d'un point A à un point B. Donc en gros, si vous passez donc sur ce wifi un peu piraté, eh bien lui, il ne verra pas ça. Parce que si il essaie de casser votre tunnel, alors il y a des méthodes très avancées, mais là on n'est pas face à ce genre de personne, du coup le VPN ne fonctionnera pas. Donc bon voilà.
Pour compléter, moi, c'est ce que je dis à titre personnel, par exemple, alors, je ne vais pas faire de pub pour un ou pour l'autre, ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Il y a des mécanismes qui sont intégrés à l'intérieur. Et quand l'outil, le client VPN, en fait, que j'utilise, détecte quelque chose d'anormal, il y a une fonctionnalité qui s'appelle kill switch en français, c'est un arrêt d'urgence, on va dire. Et il va couper toute communication, en fait, s'il estime que la couche de transport, donc le Wi-Fi en fait que j'utilise, amène quelque chose d'anormal et essaye d'accéder aux données que je suis en train de faire passer en chiffre. Donc là, vous avez en fait une sécurité qui généralement est suffisante et donc vous pouvez, si vous communiquez pas, si vous n'avez vraiment pas d'autre solution, vous êtes obligé d'aller au Starbucks du coin ou au McDo du coin pour vous connecter parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et vraiment pas d'autre solution, mettez ça en place. Là, au moins, vous n'êtes à peu près certain que ça passera. Et ensuite, dans un cadre d'entreprise, généralement, vous avez des solutions de connexion à distance qui intègrent nativement ce chiffrement, quelles que soient les plateformes que vous utilisez.
C'est à ça que je pensais quand je disais, à partir du moment où il est plus étanche, ça coupe. Et je pense que ça répond du coup à la dernière question qui a été posée, en disant que même si on utilise ces points-là, après, clairement, les façons d'attaquer, il y en a énormément. Là, il faut se rappeler que je suis en train d'expliquer ça à ma tante qui n'y connaît rien. Si après, on veut aller plus loin sur de l'activisme ou de l'APT, il n'y a aucun souci. On va prochain webinaire, aucun problème.
Alors pour compléter, hein, encore une fois, c'est que de la pondération. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de solution où on est protégé à 100%. Il faut accepter ce risque-là et il faut simplement se poser la question de qu'est-ce que ça va impacter si jamais je me fais attaquer par ce biais-là et quelle probabilité j'ai d'être attaqué de cette façon-là aussi. C'est surtout ça le premier élément. C'est-à-dire que quand vous êtes en déplacement, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un de très important au sein d'une structure où vous avez accès à des informations très très importantes, je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, il y a plein d'histoires où c'est arrivé. Mais voilà, il faut juste se ramener à notre réalité et se dire, voilà, est-ce que potentiellement je peux être attaqué sur un réseau que je vais générer moi-même à partir de mon téléphone sur de la 4G ou sur de la 5G? Est-ce que les données vont être interceptées ou pas? C'est possible. On a complètement raison là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est notre réalité? Bah, là, c'est à chacun de se poser la question et de voir si c'est possible ou pas.
Fait. Donc du coup, que faut-il retenir? Que les Wi-Fi publics sont dangereux, mieux vaut utiliser un moyen alternatif et toujours utiliser un VPN quand on est hors de zone de confiance. Donc maintenant, la protection physique, notre dernier point. Donc du coup, qui s'est jamais demandé où est ma clé USB et a eu une petite sueur froide à ce moment-là? Donc en gros, une clé USB, à la base, c'est un objet qui a été réalisé pour faire des transferts de données. Donc, concrètement, aujourd'hui, les gens s'en servent comme outil de stockage. Et quand on se dit où est ma clé USB, finalement, on n'a pas peur pour l'objet en lui-même, qui coûte une quinzaine, 20 000 euros. mais plutôt pour les données de son bonheur. On a peur que quelqu'un ait eu accès à ces informations-là, alors qu'on a toute notre vie dans notre téléphone, etc. Donc l'idée, c'est à partir du moment où un objet, comme une clé USB, contient des données, moi maintenant, c'est ce que j'applique, c'est je la chiffre. Donc concrètement, comment on peut faire ça? Et aussi bien clé USB que disque dur externe, et même disque dur interne, maintenant, moi, dès qu'il y a de la donnée, c'est chiffré. Donc pour on va dire le plus accessible, le plus multiplateforme, il y a ce qu'on appelle Veracrypt. Donc lui qui permet de chiffrer des partitions, des clés USB, voire même de créer des conteneurs sécurisés. Moi, par exemple, après je pousse le dis un peu loin, mais j'ai mon support qui est chiffré. Et dans ce support, chaque domaine a son propre conteneur, avec bien sûr à chaque fois un mot de passe différent, etc. Comme ça, je me dis, s'il arrive à casser la première sécurité, sachant que je mets quand même des algorithmes assez robustes, eh bien, il va falloir qu'il s'amuse pour casser le deuxième. Ensuite, pour des gens qui ne veulent pas forcément s'embêter avec ça et qui utilisent Microsoft, il y a ce qu'on appelle BitLocker, mais sur les versions pro. Pareil, ça permet donc de chiffrer des disques et des clés assez facilement. Et pour ceux qui sont Apple, il y a FiveVault, où avec Apple, vous pouvez donc créer des partitions ou même sur votre clé directement chiffrées. Et quand vous allez le brancher sur votre Mac, ça va vous demander un mot de passe pour y avoir accès. Aussi, dans les transports en commun, dans les bars, enfin tout ce que vous voulez, vraiment, il y a du monde. Je pense que vous avez déjà vu des gens qui laissaient leur ordinateur grand ouvert, ou même vous pouvez voir à travers eux. Moi, c'est simple, hein, hier en allant sur Lyon, j'ai vu quelqu'un qui avait laissé donc son accès à SAP, donc vraiment la partie finance de son entreprise grand ouvert et qui répondait à des mails avec ouais, des appels d'offres à quelques millions, et j'étais juste derrière. Et il n'y avait aucun filtre. Donc un filtre de confidentialité, c'est un petit filtre qu'on peut mettre et qui, dès qu'on est un peu sur le côté, on voit pas grand-chose. Après, il y a aussi un peu de discrétion, parce qu'il y en a qui sont dans les carrés, dans le train, ou qui parlent à voix haute, et ça, j'ai vécu même des amis qui parlent d'appel d'offres à voix haute, et il suffit d'être derrière, noter, baisser de 2%, et puis on gagne l'appel d'offres. C'est dommage. Dans les bars, pareil, ça j'en parle même pas. Dans les bars à Paris, à certains endroits où on entend des choses assez intéressantes pour quelqu'un qui aimerait faire ce qu'on appelle du exit et du social engineering surtout. Là, comme on peut voir sur l'image de tout à droite, des gens qui ne voulant pas prendre certaines notes ou quoi prennent une photo alors que le document et le partagent sur les sociaux. Et le document il est tagué confidentiel. Parce que Laurent, tu veux.
Ouais, je pensais pas qu'il
Voilà.
avait trouvé celui-ci. Alors, les réseaux sociaux, on peut en parler. LinkedIn, c'est génial. LinkedIn, c'est absolument fantastique. Parce qu'en fait, on est entre nous, on est entre pros, et on se comprend entre pros, on fait pas de conneries, et puis on peut se parler, on peut se donner des informations. Et LinkedIn, aujourd'hui, c'est un moyen mais de recherche d'informations qui est absolument fantastique. Et là, en l'occurrence, c'est TerraSpa, donc qui est une filiale de la SNCF qui s'occupe de tout ce qui est tirage des fibres optiques en parallèle des voies, qui faisait une réunion de présentation avec la présentation du plan confidentiel au niveau de certains partenaires. Une des personnes a trouvé bon de prendre en photo ce truc-là, de publier sur LinkedIn en disant « Ouais, c'est avec TerraSpa aujourd'hui, c'est génial, regardez, etc. » Et en bas, alors j'ai zoomé un petit peu pour voir, il est marqué en gros confidentiel, distribution interdite sans accord avec les deux tiers alpha. Donc, on a posé la question sur LinkedIn à la personne, quand même, pour savoir si elle avait l'autorisation de le faire ou pas. La réponse a été oups. Voilà, donc faut être relativement clair par rapport à ça. En fait, on a aussi une responsabilité, donc là, c'est dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde personnel, c'est à peu près la même chose. En fait, on fait attention à ce qu'on publie, on fait attention à typiquement le nombre de personnes qui, sur les Instagram, TikTok ou réseaux sociaux quelconques, s'amusent à publier des photos de leur billet d'avion parce qu'ils sont super contents de dire qu'ils partent en vacances. C'est pareil, ça on ne fait pas. Il y a des QR codes dessus, on peut récupérer énormément d'informations. Il y a tout un ensemble de réflexes à avoir. Il ne faut pas se dire que le monde est malveillant, c'est pas une réalité, je pense que le monde est potentiellement bienveillant, mais il y a quelques personnes qui vont essayer d'utiliser ces informations-là à des fins parfois juste rigolotes, d'emmerder, parfois ça peut être pour aller un peu plus loin, donc il faut faire attention à ce truc-là. Et je rebondis ici sur l'image qui est à gauche, l'image qui est à gauche, c'est moi qui l'avais fait aussi en transport en fait pour aller au FIC. Le FIC, c'est un forum de cybersécurité qui a lieu chaque année à Lille. Et l'ordinateur en question, c'est l'ordinateur d'une personne qui fait de la sécu. Donc c'est juste pour dire que les cordonniers sont parfois aussi les plus mal chaussés et que il faut aussi s'astreindre et respecter en fait les consignes qu'on essaie de donner, les bonnes pratiques qu'on essaie de donner aux gens. Aujourd'hui, moi, je suis sur un ordinateur qui avec un filtre, qui avec du chiffrement, qui avec pas mal de choses, et j'essaie de d'être le premier représentant et le premier utilisateur des consignes et des méthodes et bonnes pratiques que je peux transmettre. Là, on voit pas, il faut retourner un petit peu, et la personne parle d'incident de sécurité. C'est une discussion Teams en fait qui est présente. Et donc voilà. Et la personne est partie pendant 20 minutes aux toilettes, ou bah, je sais pas, donc j'avais accès à toutes ces informations, etc. Bon, il s'est là que la société, je connaissais un petit peu son RSSI, donc j'ai pu en discuter avec lui après. Mais voilà, il faut juste faire attention à ça. On a vraiment une responsabilité par rapport à ça, et ça démarre par le fait de ne pas laisser nos périphériques sans accès et ouverts à n'importe qui. Y compris dans telle entreprise, hein. Même dans les locaux, en fait, dans la cellule, vous pourriez verrouiller votre poste dès que vous partez. Il n'y a pas de. C'est sous Windows, c'est un Windows L, ça prend même pas une seconde.
C'est ça. Bah, c'est en plus, je voulais conclure là-dessus, le petit Windows L qui facile et efficace et tout à fait avec les réseaux sociaux, faire très attention dans le sens que des gens peuvent du coup profiter de ça pour vous intercepter, vous voler du matériel ou écouter ce que vous avez à dire dans le cadre par exemple d'un appel d'offres. C'est déjà arrivé à des gens que je connais. Voilà. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, donc concrètement, chiffrer tous les supports contenant des données. Il y a des outils de base gratuits qui fonctionnent très bien.
Ça me rappelle, il faut changer de slide.
Pardon?
Voilà, nickel, c'est bon, c'était pour qu'il y ait ceci.
Et c'était encore. Donc, être discret quand on est en voyage sur ce que l'on fait, et ainsi que sur les réseaux sociaux. Et utiliser un filtre de confidentialité, ça coûte 50 euros, et ça évite quand même pas mal de problèmes. Donc du coup, on arrive au terme de ce webinaire. Nous sommes dans les temps. Pour conclure, donc nous avons présenté des solutions simples et rapides à mettre en place qui vous éviteront près de 90% des problèmes classiques. Clairement, on n'est pas face à des attaquants déterminés, voire même des États. Là, on est vraiment sur du classique, mais comme on disait, les 80-20, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais par contre, ça a un fort impact sur votre niveau de sécurité de base. Donc, par contre, c'est sûr, si vous voulez vous prévenir de tout ce qui est interception électromagnétique ou autre, là, on n'en est pas là. Et ça, au pire, ce n'est pas l'objet d'un autre webinaire. Ce qui est important, c'est qu'en mettant ça en place, vous allez voir que ce n'est pas difficile, c'est très simple. Je pense que vous allez même d'autres gens intéresser d'autres personnes qui vont se dire, ah, mais en fait, c'est plutôt intéressant, vous allez devenir en fait le moteur de la sécurité. C'est un peu aussi le principe du cybermonde. Et l'idée, c'est de vous approprier ça, vous le montrer que c'est simple, et voire même le présenter en entreprise au-dessus de vous, dans votre famille, aux gens, et devenir en fait vraiment acteur et moteur de la cybersécurité. Moi, je reste convaincu, comme dans tout ce qui est management, que tout vient vers le bas et vraiment on remonte et fait remonter les choses. Et c'est parce que vous voudrez de la sécurité que, au-dessus, on va s'y intéresser et on va l'appliquer. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Donc, on refait un dernier point, et pour moi, ce sera bon. Donc, il faut avoir un bon mot de passe, il faut qu'il soit sûr, il faut qu'il soit dans un gestionnaire de mots de passe, il faut chiffrer vos supports, vous méfier des wifi publics et être discret sur les réseaux et dans la valise. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup,
Et il y a une
Thomas.
question qui a été posée sur le croissantage, donc pour les gens qui évitent de verrouiller. Alors, en effet, c'est une méthode qui a très bien fonctionné. Juste un tout petit point juridique, en fait, c'est pas de l'usurpation d'identité quand même. Voilà, faites juste attention à ce truc-là. Dans le cadre d'une entreprise, si vous avez la responsabilité, si vous avez le pouvoir, la délégation de le faire, aucun souci. Par contre, le faire sur un ordinateur d'un tiers que vous ne connaissez pas. Ben, la personne peut se retourner contre vous, en fait. Donc, voilà, faites juste attention à ce point. Ça serait dommage d'avoir des soucis à cause de ça. Par contre, discutez avec la personne. Si vous rencontrez une personne qui laisse son ordinateur allumé avec ça, juste la sensibiliser tranquillement et lui expliquer les impacts que ça peut avoir. Généralement, ça marche. C'est ce qui a fait très bien aujourd'hui Thomas.
Bon, merci beaucoup à vous deux. S'il y a une dernière question qui se pose dans les questions-réponses, n'hésitez pas. Mais un très grand merci pour ces éléments-là. On a donc enregistré aussi la session, ce qui est important parce qu'en fait, on va pouvoir transformer ça soit en vidéo ou en podcast, et certainement même les deux. Si ça vous a intéressé et que vous pensez que ça peut intéresser ou être utile pour d'autres, comme l'a dit Thomas, je pense que c'est vraiment essentiel de diffuser ces informations-là. Donc, vous pourrez le relayer. Nous, on vous communiquera, à l'ensemble des participants, mais même à l'ensemble aussi des adhérents de l'association, donc les replays. Il y a Aurélie qui me dit qu'il y a des questions encore, je crois, mais dans la discussion.
Dans la discussion, attends, je suis en train de regarder si je vais voir. Ou Aurélie, est-ce que tu peux me les relayer?
J'ai oublié. Je crois qu'il y a un petit dans la télé.
Alors, il y avait une question sur les outils que vous préférez pour la gestion de votre passe. Il y avait une question sur Bitwarden.
Alors, Bitwarden, on peut en parler en fait. Aujourd'hui, c'est un outil open source qui fonctionne bien. Il y a un concurrent qui est en train d'apparaître qui s'appelle Passvault, P-A-S-S-P-O-L-T. Comme ça, on ne fait pas de pub ni pour l'un ni pour l'autre. Les deux sont open source. Vous pouvez regarder un petit peu à quoi ça correspond. Bitwarden fonctionne bien. Utilisé à des fins personnelles, moi je l'ai fait il y a quelques années, j'en étais très satisfait. Donc, par contre, ça demande d'avoir un petit peu de connaissances techniques, il faut avoir un petit peu d'infrastructure pour le faire héberger. Bon, c'est juste ça. Mais ça marche très bien, il n'y a pas de soucis.
Et vraiment, les outils qu'on a présentés, c'était vraiment des outils que Madame Michu peut utiliser sans aucun problème. Après, on peut aller un peu plus loin sur certains, en effet, outils plus poussés.
Oui, Bitwarden fonctionne aussi en mode SaaS, complètement. Par contre, dans ces cas-là, il y a un petit coup à rajouter, mais dans le cas d'une entreprise, en effet, ça peut être une solution complètement acceptable.
Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Encore une fois, un grand merci, messieurs. Et juste peut-être un tout petit coup de pub aussi pour le groupe de travail en fait cybersécurité, puisque Laurent et Philippe donc, animent ce groupe cybersécurité qui a vocation justement à agir et sensibiliser des personnes qui sont censées l'être et d'autres qui le sont moins. Et bien, pour information, donc, nous prévoyons de réorganiser un événement qui a eu lieu à Charbonnières-les-Bains sur la cybersécurité qui s'appelle les Journées Cyber, qu'on a co-organisé avec d'autres associations comme l'ENE, le Plusir, la Digital League. Alors évidemment, pas avec les mêmes conférences, pas avec les mêmes ateliers, on prévoit beaucoup de nouveautés, mais pas mal de sujets à traiter, et ça aura lieu, vous pouvez déjà bloquer les dates, ce sera les 2 et le 3 mars 2023. Donc on prévoit deux journées dédiées à la cybersécurité. Et il y a Minalogique aussi qui s'associe à nous pour l'organisation. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et puis, passez à tous une excellente journée et à très vite pour le prochain épisode.